Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous recevoir sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui me donne le plaisir d'accueillir le professeur Georges Lévy qui est le co-auteur d'un ouvrage qui vient de sortir chez Personne et qui a pour titre « Les défis du capitalisme coopératif » avec un sous-titre qui est une invite « Ce que les paysans nous apprennent de l'économie ».
Absolument.
Bonjour monsieur le professeur. Et le professeur qui représente donc le duo de co-auteurs, l'autre auteur étant monsieur Pascal Perry, est accompagné du président Philippe Mangin qui a accepté de préfacer ce remarquable ouvrage. Bonjour président.
Bonjour.
Bonjour monsieur le professeur.
Bonjour.
Très heureux de vous accueillir à Canal Académie. Nous allons donc rentrer dans quelques instants dans le vif du sujet, les défis du capitalisme coopératif. Peut-être avant vous présenter un peu plus, je commencerai par vous monsieur le professeur. Donc vous êtes, je vais vous dire un certain nombre de choses et vous me direz si j'en oublie au passage. Vous êtes donc professeur au CELSA ainsi qu'à HEC. Vous avez déjà publié un certain nombre d'ouvrages et vous êtes un spécialiste reconnu des marques.
Voilà.
Quels sont vos centres de réflexion actuellement ?
Eh bien, c'est d'étendre la réflexion sur les marques, qui est un élément, je dirais, structurant de notre société, à d'autres éléments structurants de la société. C'est la raison pour laquelle on s'est en particulier intéressé à ce sujet d'un capitalisme, je dirais, de troisième voie, alternatif, dont on va parler.
Donc c'est bien au centre de vos réflexions. Alors, président Philippe Mangin, vous êtes agriculteur, vous êtes président du groupe coopératif EMC2, Lorraine et Haute-Marne, et vous êtes bien entendu le président en exercice de COP de France, fédération de l'ensemble des entreprises coopératives agricoles qui représente 40% de l'agroalimentaire français. Peut-être un mot supplémentaire de présentation.
40% de l'agroalimentaire français et 4 agriculteurs sur 5.
Oui, ce qui est effectivement extrêmement majoritaire.
Ça veut dire que l'immense majorité des agriculteurs adhèrent à une ou plusieurs coopératives. C'est dire quand même combien, au cours de ces 50 dernières années, la coopération agricole a pu façonner le visage de l'agriculture française. Certains y adhèrent sans doute par conviction et d'autres par nécessité. Mais il n'empêche que c'est un maillage du territoire qui n'oublie aucune parcelle et aucun village de France. Au-delà de ce poids économique et de notre part de marché que vous rappeliez dans l'agroalimentaire française.
Alors, le COP de France, quelques mots supplémentaires peut-être sur l'organisation en tant que telle. Alors, c'est une organisation patronale, comme on dit.
Oui, c'est un syndicat d'entreprise.
D'accord.
C'est un syndicat d'entreprise qui porte des préoccupations tout à fait particulières. C'est-à-dire que ces entreprises, 3200 sur le territoire, elles vont de la toute petite PME qui emploie
une dizaine
de salariés, la micro-entreprise. Chacun reconnaîtra là la cave viticole du petit village du Languedoc-Roussillon, jusque à de très grands groupes implantés dans le monde entier, dans des métiers comme le malt, la meunerie, avec des implantations
dans tous les
pays d'Europe, voire dans d'autres continents du monde.
Vous avez parmi vos adhérents des champions nationaux bien connus, Candia, si je me souviens bien, Péguincé, c'est ça, je ne me trompe pas ?
Bien sûr, voilà, paysans bretons,
voilà. Donc à côté de la petite entreprise près de chez vous.
Voilà, c'est une grande diversité d'entreprises, des TPE, des PME, des grands groupes, qui ont dans tous les cas une et une seule préoccupation, celle du territoire sur lequel elles sont nées et des hommes qui la constituent.
Voilà, alors on commence à déflorer le sujet. Je rappelle simplement, avant de rentrer dans le vif, que les COP de France, c'est 80 milliards de chiffre d'affaires global et c'est 150 000 salariés permanents, ce qui est un poids économique très significatif. Alors, vos regards croisés de tous les trois, d'ailleurs, puisque votre collègue n'est pas là, mais vous êtes donc deux co-auteurs et donc la préface du président Philippe Mangin, se situe en fait aux confins d'une double actualité, celle de la gouvernance mondiale, d'entreprise, etc., dont on parle beaucoup à la lumière de la crise financière. Et puis, on va dire, de façon peut-être un peu plus indirecte, en filigrane, on va dire la crise dans la crise, qui est celle des agriculteurs et de l'agriculture. Donc, on y reviendra très rapidement. Alors, les questions qu'on peut se poser, qu'on prendra au fur et à mesure, la première, c'est de savoir en quoi le modèle coopératif original à bien des égards, basé sur des valeurs fortes de solidarité et d'égalité, le fameux « un homme, une voix », ça vaut toujours ça. Hein,
bon. Absolument.
Peut-il constituer une forme de réponse à l'équation d'une économie libérale confrontée à ses excès, eux-mêmes intimement liés au cœur du système, le profit ? Deuxièmement, parler du capitalisme coopératif, vous le dites très bien dans votre ouvrage, est-ce un non-sens intellectuel ou sémantique, ou bien la juste prise en compte du bon sens de la réussite du modèle économique ? Et enfin, troisièmement, et là c'est votre sous-titre qui nous y invite, nous essaierons de voir ce que, selon vous, les paysans nous apprennent de l'économie. Alors, première question, quid donc de ce modèle coopératif original, et en quoi, dans le contexte que nous sommes aujourd'hui, il peut apporter peut-être pas une alternative, mais en tout cas un éclairage.
Une lumière.
Une lumière. Oui. Professeur Lévy.
Alors, historiquement, replaçons cet ouvrage, je dirais, dans une manière de contexte. J'avais été sollicité il y a un an de cela par COP de France pour faire sortir ce modèle dont on a rappelé qu'il était extrêmement important dans le domaine agricole, d'une manière d'anonymat discret, feutré, qui est souvent une habitude du monde rural et du monde agricole. Et donc, c'est là où j'ai découvert, je n'étais pas du tout un spécialiste du sujet, et c'est là où j'ai découvert, en effet, un modèle qui était presque le contrepoint exact de ce que l'on vivait au niveau de la crise économique. Si je résume ce qu'on vivait à l'époque, il y a un an, de la crise économique qui n'est pas encore loin de là terminé, mais je dirais qu'on a oublié peut-être les points les plus chauds. Premier élément, c'était en effet une grande opacité que nous ressentons tous. Et donc, du côté coopératif, on avait, ce que vous rappeliez, une démocratie interne qui est un homme, une voix. Que finalement, un agriculteur est un hectare et l'autre 200 hectares. Ils sont tous les deux coopérateurs et agriculteurs dans une coopérative. Et chacun a une voix, ce qui en effet change tout quand on voit les débats des assemblées d'actionnaires aujourd'hui, où finalement, deux, trois décident un petit peu pour l'ensemble. Le deuxième élément qu'on avait vu et qui était important, c'est en effet tout ce qui est globalisation. Et le président a rappelé l'importance du territoire. Et sans cracher contre la mondialisation, on s'aperçoit qu'elle a des effets qui peuvent être quand même quelquefois dévastateurs et qu'un minimum de réflexion à défaut de contrôle serait pas mal. Et le modèle coopératif est complètement intégré sur un territoire. Donc globalement, il y a une obligation, même s'il y a exportation, s'il y a des filiales, etc. Ce sont sa part d'un territoire et tout revient globalement sur le territoire. Alors le troisième élément qui était important, c'est que globalement, on s'est aperçu qu'il y a une vraie rupture dans le modèle capitaliste, alors qu'on l'appelle néolibéral, qu'on l'appelle cupide, enfin que chacun l'appelle comme il veut, mais il y a une vraie rupture entre finalement la finance et l'économie, entre la finance et le travail. Et alors, ce que j'ai découvert dans le modèle coopératif, c'est qu'en effet, l'agriculteur, il est associé, quoi. Il est sociétaire, il est associé, il a des parts sociales, et de l'autre côté, il apporte le fruit de son travail. Donc, il y a un lien qui se fait.
Capital-travail.
Ouais, capital-travail, ce que le général de Gaulle appelait de ses souhaits il y a déjà quelques décennies, qui était une logique de participation, en quelque sorte, si vous voulez, quelle que soit sa forme. Et puis, puis, alors, le dernier point sur lequel insiste beaucoup un certain nombre de gens de Coupe de France, et en particulier Pascal Praud, et je pense qu'il a raison de le faire, c'est de dire qu'il y a, et ça a été la base de l'explosion de Lehman Brothers, c'est qu'il y a une obligation de maintenir les fonds propres dans le système coopératif. Autrement dit, lorsque de l'argent est mis en réserve, on n'a plus le droit de le sortir. Alors que, si vous voulez, ce qui a fait exploser la crise, c'est en fait la faillite de Lehman Brothers, qui ne pouvait plus rembourser parce qu'elle avait insuffisamment de fonds propres. Et donc, lorsque j'ai découvert ça, je me suis dit, quand même, on a presque une réponse qui a aujourd'hui un siècle et demi de vie, qui a sans doute, je dirais depuis le Moyen-Âge, c'est plus ancien, mais de façon structurée, au moins un siècle et demi de vie, et avec des réussites, comme vous le rappeliez tout à l'heure, de géants mondiaux, d'une vingtaine de coopératives qui font toutes en France plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est relativement important, et de champions internationaux, si vous voulez, qui sont issus de ce système. Donc, ça n'est pas que simplement un système qui fonctionne bien à trois ou quatre copains parce qu'ils se comprennent bien et qu'ils sont capables de s'entendre, c'est capable de fonctionner à 150 000 personnes. Et là, on a trouvé que c'était assez intéressant.
Oui, mais alors, parfait. Donc, on voit bien ce qu'est l'histoire et l'essence De ce modèle. Mais lorsque justement la taille des entreprises atteint les niveaux que vous êtes en train de décrire, alors est-ce que, en termes de philosophie, d'esprit, d'organisation, est-ce que justement ces entreprises-là ne sont pas tentées ou contraintes de s'adapter et de se mettre sur le modèle, on va dire, entre guillemets, capitaliste classique? Je pense à les grands noms, Candia, Limagrain est une coopérative, j'imagine.
Absolument.
Bon, Limagrain, bon. Des entreprises internationales qui sont sur le marché, en concurrence. Donc, vous parliez de capitaux propres. La recherche de capitaux propres suppose une forme juridique adaptée, etc. Alors, question, est-ce que la taille ne fait rien à l'affaire ou sens inverse ?
Vous évoquez là la réelle pratique des spécificités coopératives. Au fond, est-ce que dans un grand groupe, elles sont encore pratiquées comme dans la petite cave villageoise que j'évoquais dans le fin fond du Gard ? Je vous dirais que nous constatons que cette pratique n'est aujourd'hui pas du tout liée à un critère de taille. Que nous voyons parfois, comme l'évoquait Georges Léhuy à l'instant, des petites COP qui sont des clubs de copains qui fonctionnent très bien, mais dans laquelle la pratique des valeurs de la démocratie est discutable, on peut le dire. Et au contraire, nous allons trouver de grands groupes sur 5, 6, 7 départements où vraiment l'implication des agriculteurs dans le groupe coopératif, c'est-à-dire la coopérative prolongement de l'exploitation, et éventuellement à côté ses filiales implantées à l'étranger, etc., où cette participation, cette implication est tout à fait réelle. Et on a d'ailleurs des sondages réalisés par des instituts dignes de ce nom qui le démontrent, où vraiment ces gens-là se disent « Moi, ma coopérative, c'est à moi, j'y tiens, je suis ce qu'elle fait, je veux participer à ses décisions ». Donc, ce n'est pas le critère de taille qui révèle la bonne ou mauvaise pratique de cet idéal, disons-le, coopératif.
Et alors, on est coopérateur de père en fils, alors ?
Il est vrai que la coopération est quand même souvent née dans les plus grandes périodes de crise. Hein, c'est la première coopérative viticole, les Vignerons Libres de Maraussan, est née au plus fort de la crise viticole en 1901. Les coopératives céréalières, implantées sur tout le territoire, nombreuses, sont nées au lendemain de la crise de 1929, après que la volatilité des cours du blé ait été celle qu'on est en train de connaître aujourd'hui, avec des écarts de 1 à 3. Donc, fille de la misère, dit-on souvent quand on parle de la coopération agricole, c'est vrai que les crises ont déclenché chez les agriculteurs la volonté de se regrouper, car c'est d'abord ça. La première mission, la première fonction des coopératives sont des agriculteurs qui se disent « ça suffit, prenons notre destin en main. Ne restons pas soumis, ne restons pas des mineurs de fond de l'agroalimentaire, prenons notre destin en main. » Alors ce destin, il a d'abord consisté à essayer de vendre ensemble sa production pour essayer de créer vis-à-vis des clients un rapport de force meilleur pour les paysans. Et puis, bien sûr, dans cette mondialisation où les matières premières agricoles sont l'objet de toutes les convoitises financières. Eh bien, les agriculteurs, dans leur coopérative, se disent « Mais nous ne sommes pas de simples producteurs de blé, et on va essayer de s'intéresser à la valorisation de notre produit, à sa transformation, à essayer de le présenter aux consommateurs dans un package sous forme de biscuits, sous forme de yaourts. »
Donc de façon fromage, à être à chaque bout de la filière, en quelque sorte.
Pour être le plus loin possible dans la filière. Et je crois que l'actualité est en train de nous révéler combien cette bataille doit être poursuivie. Essayons de ne pas être complètement dépendant du marché à terme de Chicago.
Alors, puisque vous parlez d'actualité, président, il y en a une qui est bien connue, qui est très sensible, hein, donc nous irons à pas mesurer, c'est celle de la filière lait. Donc, en quoi ? Donc, je vous pose une question à tous les deux, certainement plus au président, mais enfin, je pense que le professeur a aussi son regard là-dessus. En quoi le fait d'être coopérateur, d'appartenir à ce mouvement coopératif, est de nature à faciliter les choses dans cette difficulté extrême qui est rencontrée par... Elle ne peut pas tout résoudre, mais en quoi ça peut apporter un plus ?
Bien, écoutez, au fond, les évolutions successives de la politique agricole commune révèle une chose simple, c'est que l'organisation des marchés ne dépend plus de la puissance publique, mais de la volonté des agriculteurs. On peut en discuter, parce que imaginer que le marché puisse à lui seul satisfaire la demande alimentaire mondiale, c'est suicidaire. Mais en tout cas, c'est une pensée qui est en train de s'installer et contre laquelle Coop de France lutte. Parce qu'il ne s'agit pas de chaussures, d'ordinateurs ou de voitures. Il s'agit quand même de la problématique de l'alimentation, de la vie et d'une fonction nourricière qu'on ne peut laisser aux seules mains invisibles du marché et donc des spéculateurs. Mais il n'empêche que cette tendance s'est confirmée, malheureusement, d'année en année, dans l'évolution de la politique agricole. Et dans tous les cas, quel que soit ce qui sera décidé en 2013, puisque c'est l'échéance d'une nouvelle réforme. Quel que soit ce qui sera décidé, les agriculteurs doivent se dire qu'il faut faire les affaires nous-mêmes. Il faut essayer...
Donc prendre votre destin en main, reprendre
votre destin en main. Nous organiser le plus possible. S'agissant de la crise laitière, qu'est-ce qui révolte les agriculteurs et les inquiète autant ? C'est cette suppression des quotas annoncés. Avec des gens qui se disent, mais alors, demain, mon volume de production peut être remis en cause. Je n'ai plus aucune certitude sur le prix. Donc moi qui travaille 7 jours sur 7, et je suis un des rares dans cette société, des 35 heures et du loisir, je suis un des rares. Voilà qu'on me dit, en plus, tu n'as plus de perspective. Et plus de revenus par conséquent en ce moment, mais peut-être que ce revenu peut s'améliorer demain. Donc, ils sont en train de dire tout ça. Eh bien, je crois que la coopération, les coopératives laitières, si elles savent coopérer entre elles, peuvent venir répondre aux inquiétudes des agriculteurs en disant « Votre volume de production, donc l'avenir de votre métier, nous sommes capables d'en sécuriser, d'en garantir une grande partie. Peut-être pas tout, mais 90% par exemple, ou 85%. Bon. Le prix, on est peut-être capable tous ensemble de vous assurer un prix minimum. Et on ne vous laissera le risque que sur une infime partie de votre production. Bon, voilà ce que toute la coopération, les coopératives, peuvent ouvrir comme chantier avec leurs producteurs, leurs adhérents. Et, je pense que Georges Lehuy ne me démentira pas, et en nous tournant vers le consommateur pour essayer de bâtir tout cela. Regarder le marché et dire au consommateur, mais au fond, n'aurions-nous pas sur notre région des circuits plus courts à inventer, un lien plus direct à construire avec vous, une bataille gagnant-gagnant. C'est-à-dire que le consommateur subit les hausses des produits agricoles à chaque fois, quand il y en a, et depuis 2 ans il y en a eu, et ne perçoit jamais la baisse. Et donc il ne comprend rien, le consommateur, il se dit « mais c'est quoi tout ça ?» Et la coopérative qui est à côté de chez moi, à 50 km, qui a une usine, est-ce qu'elle peut m'apporter un avantage ? Bon, eh ben, voilà un chantier sur lequel nous voulons travailler. Et je pense que la crise laitière, et celle du porc, celle de la viticulture, parce que malheureusement trop de secteurs sont en crise, invite les coopératives à se tourner vers le consommateur et à recréer un lien et à trouver des formes de circuits sans doute plus courts et des stratégies gagnant-gagnant. Nous nous mettons l'homme, l'agriculteur, au cœur de nos préoccupations, le territoire, parce que toute notre stratégie est durable, pas de court-termisme, pas de rentabilité immédiate, on place ça dans la durée. Maintenant, il nous faut construire le lien et l'avantage pour le consommateur.
Chers amis, vous venez de sentir à travers les propos du président Philippe Mangin combien la passion était au cœur de ces réflexions. Nous allons reprendre notre Au fil des pages après une courte pause.
Les sculptures de Brigitte Terzieff entrent à l'Académie des Beaux-Arts. Des figures immenses, impressionnantes, spectrales, modelées dans le grès et percées de fer. Nous avons rencontré Brigitte Terzieff dans son atelier à Paris. Une rencontre avec une femme sincère, inspirée par la danse moderne et l'art africain. Cette émission est à écouter sur canalacademy.com.
Chers amis, nous reprenons donc notre entretien au fil des pages avec mes deux invités, le président Philippe Mangin, président de Coop de France, et le professeur Georges Lévy, le co-auteur avec Pascal Perry, de l'ouvrage qui vient de paraître chez Personne, « Les défis du capitalisme coopératif, ce que les paysans nous apprennent de l'économie ». Alors professeur, deuxième aspect, parler de capitalisme coopératif, déjà avec une sous-question, quand on parle, à travers nos propos initiaux, on a parlé de l'aspect coopératif agricole. Il y a d'autres aspects coopératifs, notamment bancaires.
Oui.
Pour vous, c'est le même raisonnement, c'est la même famille ou les choses sont très différentes? Parce qu'à un moment donné, il y en a un qui est fournisseur de l'autre.
Oui.
On peut dire client si on veut, mais
alors,
est-ce que c'est à peu près le même combat?
En tout cas, pour poursuivre sur ce que disait le président Mangin, je crois que je l'ai vécu là pendant 9 mois où j'ai écrit cet ouvrage avec Pascal Perry. Et dans l'ensemble des réunions qu'on a eues, les agriculteurs coopérateurs ont très bien compris ce que voulait dire coopérateur et l'ont pris de façon presque étymologique, c'est-à-dire opérer avec, travailler avec. Et donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important parce qu'on le voit très bien que c'est presque un ADN. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un problème qui est posé, dans un capitalisme non coopératif, ben globalement, chacun se dit ben « comment je m'en tire mieux que le voisin ?» Dans le système, en tout cas agricole, et je répondrai à votre question hors du monde agricole, dans le système, en tout cas agricole, ce qui est intéressant, c'est de voir à chaque fois le président Mangin ou quelqu'un d'autre de Coop de France disait qui peut y aller ?» Qui peut essayer de résoudre le problème? Qui peut aider Paul? Qui peut aider, etc. Et donc, il y a un premier élément qui est extrêmement important dans cette logique coopérative et qui va faire le lien avec ce qui sort du monde agricole, c'est le fait que lorsque un acteur a un problème, les autres arrivent à son secours, en tout cas, pour voir comment...
Et
voilà, comment on règle le problème? C'est d'abord entre coopérateurs que ça se fait. Et c'est là la raison pour laquelle le président dit, avec les consommateurs, il faudrait qu'on ait le même type de réflexion parce que c'est presque un ADN. Alors, en dehors du monde agricole, en effet, pratiquement les premières coopératives ont été des coopératives bancaires et des coopératives d'assurance. Pour protéger en particulier le monde agricole, mais également le monde industriel, oui. Les artisans, etc.
L'accès au crédit, plus
voilà.
Facile,
accès au crédit. Oui. Et quand il y a un pépin quelque part, comment est-ce qu'on va aider le copain et pas le laisser dans une misère absolue? Et donc, il y a eu du côté ouvrier, donc la naissance des syndicats, puis de la sécu, etc., qui est arrivée. Et du côté, je dirais plutôt de l'entreprise, ces logiques qui sont mises en place. Alors, il y a une différence quand même notoire, c'est que le monde coopératif agricole est resté très attaché à son territoire, pour des raisons essentielles, puisque on cultive,
en fait.
Voilà, on cultive sur un lieu, si vous voulez, et on ne cultive pas hors sol, en tout cas aujourd'hui dans le monde coopératif, Mais le monde bancaire et le monde de l'assurance, c'est un petit peu sorti de son territoire. Et on voit bien que le Crédit Mutuel de l'Ouest, etc., sont très masqués aujourd'hui par la marque Crédit Mutuel, ou le Crédit Agricole, etc., ou la Banque Populaire du Tarn et de la Genêt est très clairement chapeautée par la Banque Populaire et demain, je dirais, des fédérations un peu plus internationales. Et c'est là où je pense que les deux mouvements qui sont de la même essence se sont un petit peu éloignés, mais je sais en tout cas pour avoir travaillé pour pas mal de groupes d'assurance et de banques qui viennent du monde coopératif, qu'en permanence elles s'interrogent là-dessus si elles ne devraient pas réactiver un petit peu leur sociétariat qui est quand même un élément essentiel. On le voit bien à la Maif qui continue d'être très forte sur ce point par rapport à d'autres assurances. C'est sans doute, on parle de marque puisque c'est ma spécialité, c'est sans doute aujourd'hui la plus belle marque d'assurance qu'il y a en France.
Et donc, mais ceci suppose alors d'animer les réseaux de sociétariat. Ça suppose que les sociétaires eux-mêmes soient disponibles et trouvent de l'intérêt dans la vie de l'organisation en question. Donc c'est toute une démarche d'implication et de motivation que l'on trouve, bien entendu, chez les coopérateurs, c'est absolument évident, mais qui va de soi, puisque c'est lié à un acte de production, alors que du côté des sociétaires classiques, c'est peut-être un peu moins évident. Mais enfin, en tout cas,
effectivement... Mais en tout cas, ça pourrait être au moins, comme ça l'a été il y a quelques décennies, au niveau d'actes de gestion. C'est-à-dire qu'on a vécu, à un certain moment, des mutuelles en particulier, qui décidaient ensemble, ou les sociétaires, et où l'argent était reversé en fin d'année. Moi, je me souviens que sur certaines mutuelles, il y avait de l'argent qui était reversé en fin d'année, parce que les sociétaires avaient voté. On est un peu loin de ça aujourd'hui.
Très bien. Alors, je crois qu'on a maintenant balayé à peu près l'ensemble du spectre coopératif, si je puis dire. Donc, j'en viens à vous pour terminer. Le temps passe à la vitesse grand V. Je crois qu'il faudra qu'on recommence une deuxième émission, parce que vous êtes tous les deux riches de savoir et d'expérience. Vous vous dites, président, à quelque part, j'ai vu ça dans l'ouvrage, que vous plaidez pour un minimum de régulation internationale pour ce qui touche à la vie, l'eau, l'air, l'énergie, la nourriture. C'est sur ce terrain que va se jouer l'avenir de la planète et sur lequel le capitalisme coopératif est en capacité d'apporter, par son expérience et son succès, ce supplément d'âme. Non, ça, c'est moi qui l'écris. Mais enfin bon, je veux dire que ça soit rejoint, que chacun appelle de ses voeux. Alors, vous pensez qu'effectivement, le modèle coopératif peut servir de référence sur ce qui est, on va dire, de l'autorégulation, en quelque sorte, par rapport à l'exemple international?
J'en suis convaincu. Je crois que... Si on prenait le temps de regarder l'évolution de l'agriculture depuis l'après-guerre, on verrait que beaucoup d'agriculteurs n'auraient pas pu exercer leur métier sans les coopératives. Je ne peux pas m'empêcher de parler de ce que j'ai vécu à 23 ans quand j'ai choisi le métier d'agriculteur. J'étais dans l'incapacité, seul sur mon exploitation, de stocker,
de résoudre
la récolte,
de
résoudre tous les problèmes auxquels j'étais confronté. Et certes, mon grand-père, mon père étaient des coopérateurs convaincus, etc. Mais j'y suis d'abord allé par nécessité. Et ensuite, parce que j'y ai vu tout de suite derrière le levier à un projet de territoire qui allait dynamiser, pérenniser et l'agriculture de ma région et son économie. Vous savez, je suis meusien. À Verdun, ma coopérative est le tout premier employeur, avec 600 salariés. Et lorsqu'on décide d'acquérir une jardinerie ou un métier qui peut paraître annexe à l'agriculture, nous le faisons parce qu'on est soucieux de l'économie territoriale aussi.
Donc vous êtes des entrepreneurs ancrés sur le territoire.
Tout à fait, complètement ancrés sur notre territoire.
Et au service de l'agriculture.
Et voyez-vous, face à cet immense défi, 9 milliards d'habitants à nourrir, dans quelques dizaines d'années, 9 milliards. Alors que nous savons que près d'un milliard d'humains aujourd'hui ne mangent pas à leur faim, et parmi eux, 700 millions de paysans, qui ne vivent pas du travail de leur terre, qui n'arrivent pas à s'en nourrir. Ça demande vraiment que la libéralisation du commerce, s'agissant de l'agriculture, intègre quand même d'autres préoccupations que la seule ouverture des frontières. Ça demande quand même qu'on donne les moyens aux agriculteurs dans tous les continents, quel que soit leur gouvernement, de s'organiser entre eux. Et je crois que, sans vouloir aller imposer le modèle français au Mali, en Ukraine ou dans d'autres parties du monde, quand même, nous réfléchissions et que la Banque mondiale, le FMI, l'ONU voient dans quelle mesure on peut inciter les agriculteurs à vouloir prendre leur destin en main. Je crois que vraiment l'agriculture française et une bonne partie de l'agriculture européenne ne serait pas ce qu'elle est si le mouvement coopératif agricole n'avait pas cette densité, cette diversité et cette puissance, disons-le.
Voilà, c'était le mot de la fin du président Philippe Mangin, qui a les pieds bien sur terre, mais le regard sur l'horizon, l'avenir et l'international. Discret, puissant et méconnu, tel est le monde coopératif agricole. Nous avons vu qu'il avait d'excellents avocats, le président Philippe Mangin et le professeur Georges Lévy, qui a co-écrit avec Pascal Perry « Les défis du capitalisme coopératif, ce que les paysans nous apprennent de l'économie, chez personne, pour le prix… »
19 euros.
19 euros, c'est parfait. Messieurs, merci à vous et encore bravo pour ce magnifique ouvrage. J'invite donc nos auditeurs à se précipiter dans toutes les bonnes librairies. À très bientôt.
Merci.